Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Lali de Ré nous a rejoint. Voilà quelqu'un qui aime la terre d'Israël, par exemple. Hein, Lali? Quel plaisir de vous recevoir dans ce studio. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais vous demander de faire attention au micro. Je sais que vous faites aussi des conférences et que c'est un sujet que vous connaissez bien. Mettez le micro juste en face de moi, on est en direct. Et Lali, vous êtes à Paris, vous, à l'invitation du département promotion de la Aliyah de l'Organisation Sioniste Mondiale. Vous allez donner toute une série de conférences sur l'idée de donner un sens à sa vie. On voit qu'Ariel, d'ailleurs, lui, il a trouvé.
Ouais. Hein, il a donné un sens, il a les panneaux d'indication, il a tout ce qu'il faut.
Il a tout ce qu'il faut. Lali, vous êtes journaliste comme moi. J'ai vécu avec beaucoup de peine quand j'ai appris la nouvelle de la disparition de votre fils pendant la guerre à Gaza. Et vous avez décidé, vous, c'est marrant, ça me fait un peu penser à Eva Sandler, qui elle aussi avait dit, je vais le prendre un peu à l'envers. Je vais donner un sens à ce qui n'en a pas.
Exactement.
Et donc là, vous allez donner une série de conférences sur donner un sens à sa vie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
J'ai envie de dire que, vous savez, on connaît la pyramide des besoins de Maslow. Dans cette pyramide-là, on nous dit qu'il faut d'abord avoir les besoins physiologiques, physiques, essentiels, manger, boire, avoir un toit au-dessus de sa tête, dormir, c'est la base de tout. Et ensuite, on peut aller de l'avant et avoir des relations humaines, des relations sociales. Et seulement à la fin, à la fin, à la fin, si on a déjà tout ça, alors on peut donner un sens à notre vie. Mais il faut d'abord que ces deux bases soient existantes. Et moi, je dis que le peuple juif, il est sorti d'Égypte. Et le peuple juif, il a renversé cette pyramide. Et le peuple juif, il a prouvé tout au long de son histoire que la base de tout, c'était de donner un sens à sa vie. Et que lorsqu'on donne un sens à sa vie, on arrive à supporter la douleur, la peine, le manque. Il y a cette phrase de Viktor Frankl qui est extraordinaire, qui dit « Celui qui a un pourquoi saura faire face à tous les comment. » Et donc moi, la manière que j'ai choisi pour supporter le comment. En hébreu, on dit ça « R ». Et vous savez, dans Tisha B'Av, on lit la Megillat Eicha. Et moi, j'ai décidé de, pour supporter ce comment qui me transperce le cœur, qui me fait mal à tous les membres de mon corps, j'ai décidé de me relier au pourquoi. Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi j'ai mis au monde 6 enfants? Pourquoi je les ai envoyés à l'armée? Pour quelles raisons profondes? Pas quelque chose de superficiel. Et plus je me connecte à cette raison profonde, et plus j'ai la force de supporter le comment et de me lever le matin, de m'habiller, de me maquiller, de sortir rencontrer mon peuple, qu'il soit en Israël ou maintenant ici en France, parce que ça me remplit de... Ça n'efface pas la peine elle est toujours là, mais ça me permet de vivre à côté de cette peine et de lui donner un sens.
Cette guerre est d'une cruauté sans nom. Et des fois, je pense que comme ce que vous avez vécu avec la disparition de votre fils, c'était en juin dernier, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est,
le 20 juin.
C'est très frais. Quoi. Ouais. Moi, je me demande comment vous faites pour le supporter. Mais je me suis dit, oui, vous voulez dire quelque chose?
Non. Il y a des moments où c'est insupportable. Il y a des moments où je suis dans mon lit et les murs tremblent tellement je hurle de douleur. Ça existe, ça aussi. Il y a des moments où ma voix, elle ressemble à la voix du chauffard. Vous savez, on dit que la voix du chauffard, c'est la voix de Sarah quand on lui a fait croire que son fils avait été tué, que Yitzhak Avinu, notre père, il avait été tué. Et cette voix, je la fais entendre aussi, elle existe. Mais je me concentre énormément, pas seulement sur ce qu'il n'y a pas, sur le vide, mais sur tout ce que j'ai. J'ai un mari, j'ai une famille, j'ai d'autres enfants.
Ils sont plus grands ou plus petits?
Il y en a un plus grand, Saadia était le deuxième. Et des plus petits, j'ai des petits-enfants. Vous savez que Saadia nous a laissé un cadeau. Saadia... Il avait 27 ans et demi, il était marié à Racheli et donc il avait deux enfants, Haleli et Inon. Et le lendemain de la Shiva, Racheli, sa femme, a découvert qu'elle était enceinte.
Le lendemain de la Shiva.
Le lendemain de la Shiva. Et il y a à peine un mois, elle a donné naissance. Et ouais. Elle a donné naissance au troisième enfant de Saadia, à son troisième enfant à elle. Et elle l'a appelé Yagel Chaim. Il vivra sa vie dans la joie. Combien de courage il a fallu à cette femme, à cette épouse, à cette veuve, pour donner un nom tellement rempli de signification, d'espoir à ce gosse.
Parce qu'Yagel, en plus, il y a une idée de jubilation presque.
Exactement.
Yagel, c'est genre,
Yagel
c'est le
Yaakov,
max.
Yagel Yaakov, Ismach Israël.
Ouais.
Et c'est exactement ça. Et
elle,
c'est incroyable de se dire que Rachel, qui depuis 9 mois dort seule dans son lit avec
ses enfants.
Et ses enfants, avec la mort autour d'elle, Saadia lui a laissé la vie. Cette vie qui s'est développée en elle. En hébreu, tu sais, le mot utérus, rechem, il vient du mot rachamim, qui dit miséricorde. Tellement de miséricorde dans ce bébé-là qui naît à l'intérieur d'elle, qui se développe, qui donne des coups de pied, qui lui rappelle la vie sans arrêt. Et depuis sa naissance, elle a repris courage, Racheli. Elle réussit à surmonter cette peine. Et c'est un véritable cadeau. Et ça, c'est je crois que c'est l'espoir juif par excellence. Cette capacité à tomber au plus bas, à la poussière. Mais de là-bas, de l'endroit le plus bas, de se relever et d'espérer encore et toujours. Et c'est ce qui est magique dans notre peuple.
Mais je crois que vous, les Israéliens, vous êtes plus forts que nous, les Juifs.
Je ne vous contredirai pas sur ça. Non,
vous êtes plus forts que nous, je ne sais pas comment vous faites. Vraiment, je ne sais pas comment vous faites.
Viens et tu verras.
Mais à chaque fois, je viens, je vois. C'est ça.
C'est impressionnant.
Je ne sais pas comment vous faites.
Je
me suis dit, cette société, elle va avoir du mal longtemps. Et je vois une vie, je vois une jeunesse, je vois plus de gens danser dans les rues de Jérusalem avec des drapeaux que j'en vois à Paris.
Mais c'est, je vais te dire, c'est Pécédère ce que je te tutoie, c'est bon. Moi, je ne savais pas que j'avais élevé un héros. Je n'étais pas consciente de ça. Ces mères, ces pères, ces femmes qui envoient leurs enfants à la guerre, on n'est pas conscient. Et ceux qui sont à la guerre, ils ne sont pas conscients qu'ils sont des héros. Je n'avais pas conscience, moi, quand j'ai élevé mon fils, qu'il allait être, qu'on allait trouver de lui, qu'il avait un tel impact sur tellement de gens. Et au niveau du Limud Torah, de l'étude de la Torah, il a étudié pendant 11 ans à la yeshiva, il était avraire. Il a étudié pour être rabbin, il a passé les examens pour être rabbin. Mais je ne savais pas qu'il allait avoir un tel impact, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, on le sait aujourd'hui parce qu'il est décédé, parce qu'il a été tué. Mais on est entouré de super-héros. Entouré. Il suffit juste d'être à l'écoute. Il suffit juste de chercher.
Je reviens de Kfar Aza, j'y étais avec le KKL. Oh. Et il y a une dame qui est une grand-mère qui nous a raconté qu'elle est restée dans son abri pendant 35 heures. À Kfar Aza. C'est son petit-fils et sa petite-fille de 11 ans qui tenaient la poignée au cas où les terroristes ont essayé de rentrer 3 fois. Vous savez, les terroristes, quand ça prend trop de temps, comme ils veulent tuer beaucoup de gens à Kfar Aza, ils s'en vont.
Et
donc
ouais.
Ils ont réussi à les mettre en fuite. Et elle raconte qu'elle avait offert un couteau de Shabbat à son fils et lui a dit « mets-le dans la chambre ». Évidemment, vous connaissez l'histoire, le mamad, la chambre c'est dans le mamad, quoi, c'est dans l'abri. Et elle a vu sa petite fille de 11 ans pendant 35 heures en mettant sa main sur la poignée, une main sur la poignée, et en tenant un couteau dans l'autre main. Elle a 11 ans, la petite.
C'est
incroyable.
C'est dingue. Moi, la semaine dernière, j'étais à Rome. On est allé visiter la communauté juive de Rome avec plusieurs familles endeuillées. Il y avait avec moi un petit bout de dame, Madame Elarar. Elle mesure 1m40, 1m50, toute petite. Elle a perdu son premier fils pendant la guerre du Liban. Et ensuite, elle a son fils et sa belle-fille qui ont été tués dans leur abri. Et il est resté leur fille. Elle avait 8 ans. Elle a 8 ans. Elle s'est cachée dans une armoire pendant 8 heures. Et elle a tenu le coup, cette gosse.
Je sais pas. Mais vraiment, c'est... franchement, les Israéliens, c'est une leçon. Je sais pas. D'ailleurs, cette grand-mère disait la même chose. Elle disait, on regardait ma petite. Comme ils ont un groupe WhatsApp sur le kibbutz, ils communiquent. Et les soldats sont rentrés en contact avec leur groupe WhatsApp. Et elle dit, c'est ma petite fille qui dirigeait les soldats. Elle a 11 ans. Ouais. Et elle disait, dans telle maison, ils sont en train de les attaquer. Elle a, la petite de 11 ans leur a même dit, nous finalement, on n'est pas blessés. Allez d'abord dans les autres maisons.
Non, mais
elle a 11 ans.
Sapir, qui est revenue de... Elle a été pendant plusieurs centaines de jours captive, otage. Elle raconte que... Tu sais, il distribuait le pain, des petits morceaux de pain. Et un jour, elle est avec d'autres otages. Et le terroriste lui donne à elle uniquement un morceau de pain. Et pas aux autres. Et là, elle face à ce dilemme qui est incroyable. C'est, on veut dire, on est en train de voir la Shoah en technicolore, quoi. Elle dit, qu'est-ce que je fais de ce morceau de pain? Est-ce que je le garde pour moi pour survivre? Justement, je te rappelle la pyramide de Maslow.
Non, mais c'est une sugya de la Gemara. Donc ça serait intéressant de voir ce qu'elle a fait.
Non. Justement, la sugya de la Gemara, elle dit qu'elle doit manger.
Ouais.
Ben non. Elle a dit, je pourrais pas me regarder dans une glace, dans un miroir.
Elle a donné.
Elle a partagé et ça leur a donné des forces à tous parce qu'elle, en premier lieu, elle a pris des forces parce qu'elle a donné un sens à ce qu'elle faisait. Tu sais, Viktor Frankl, pour le rappeler, c'est exactement ce qu'il faisait aussi à quand il était à Auschwitz avec les autres détenus. Il leur rappelait leur visage humain. Et c'est vrai que la Sougia de la Gemara, elle dit ça. Mais...
Et tu bois.
Elle la connaissait pas. T'es dans le désert,
t'as une gourde, qu'est-ce que tu fais? Trois solutions. Tu partages, tu bois toi, tu donnes à l'autre.
Non, tu bois toi. Je sais. Ouais. Mais elle a pris la décision. Et ce qui est incroyable, c'est que ça lui a donné les forces de continuer à survivre. Cette décision qu'elle a prise à ce moment-là.
Ah oui, c'est la décision force, ça, certainement. Lali Deray est toujours dans les studios avec nous. Vous allez donner donc toute une série de conférences. Je vais simplement dire que vous serez au Salon de la Alia le 30 mars. Vous allez rencontrer ceux qui le veulent. On vous retrouve aussi au Rincy, si je ne me trompe pas, dans les dates que j'ai notées ici. Je crois qu'il y a des endroits où on a préféré, où l'Organisation Sioniste Mondiale a préféré ne pas donner exactement l'adresse, etc.
Mm-hmm. Donc,
on s'inscrit, et après on va sur le site osmfrance.fr, osmfrance.fr. Il y a des annonces qui passent aussi, donc on peut retrouver. Le Rincy, c'est que pour les femmes.
Mmh.
Ah bon, bon.
Et oui, c'est discrimination positive.
et vous serez à Marseille demain soir. D'ailleurs, là, ce soir, vous donnez une conférence aussi avec un groupe d'amis très restreint. Moi, je sais que c'est un privilège de vous rencontrer. Donc, je pense que voilà, il faut y penser. Salon de la Alia le 30 mars, le Rincy demain soir, Marseille
dimanche soir.
Absolument, dimanche le Rincy que pour les dames et Marseille demain soir. On a tout ça qui est résumé sur osmfrance.fr. Je voudrais vous poser une dernière question, Lali. Bien sûr que le 7 octobre. On en parlera, mon fils en parlera dans 30 ans. Mais il y a quelque chose de terrible, on ne peut pas faire de comparaison, mais il y a quelque chose qui est terrible, que nous en France on vit. C'est ce sentiment, c'est un sentiment terrible. Sentiment de mise à index, sentiment d'acharnement. On fait une manif contre le racisme. Ça devrait normalement être un endroit qui nous est bienveillant. Samedi dernier, ça se termine avec des cris de génocide. Et ce qui est terrible, c'est ce sentiment où on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire du mal, finalement. Il y a toujours une agression, le rabbin d'Orléans. Il y a toujours quelque chose. Et je me dis que, quelque part, sans faire de comparaison, il y a le 7 octobre, mais il y a l'après. Et l'après aussi, il y a quelque chose de terrible. Alors vous, évidemment, vous êtes plus qu'un symbole sur l'après, mais qu'est-ce que vous avez envie de me répondre?
Alors, je vais parler peut-être sur un niveau métaphysique, si ça ne vous dérange pas. Moi, pour moi, la création de l'État d'Israël, c'est un événement méta-historique. C'est Dieu qui agit incognito. Comme dans la Megillat Esther, où on ne voit pas son nom, et il y a toutes sortes d'intrigues politiques, et tu as un Théodore Herzl, qui plaident la cause d'un État juif. Et on a toutes sortes de l'ONU, etc. Et ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dans la Megillat Esther. Et pour moi, cet événement métaphysique, c'est Dieu qui nous dit « La galoute, c'est fini. » Et on est en train de vivre ce début de fin de galoute. Et ce début de fin de galoute, il fait mal. Il est douloureux. Ça s'appelle les douleurs de l'enfantement. Comme quelqu'un qui va accoucher et qui a des douleurs terribles, mais qui, pour finalement donner naissance à quelque chose de magnifique, à un enfant magnifique. Et ces douleurs-là, je comprends pourquoi en France, je ressens, depuis les quelques jours que je suis là, un énorme malaise, parce qu'en Israël, vous le disiez tout à l'heure, en Israël, on a ce sentiment que oui, c'est vrai, il y a quelque chose d'horrible qui nous est arrivé, une tragédie, un massacre, mais on s'est levé, on s'est battu. Et on avait quelque chose de très clair, on avait un ennemi très clair, on avait des armes pour le combattre, et on a réussi à... Qui eût cru
conturer Nasrallah.
Conturer Nasrallah, conturer Sinoir.
Ça ferait tomber le régime truc, du Syrie.
Ouais, exactement. Qui aurait... Donc ça, on l'a. Et en France, on a l'impression des fois que... D'accord, je suis entourée de personnes, comme tu as dit, qui nous veulent du mal, mais vers qui je vais me tourner? Je vais donner juste encore une dernière anecdote. 2 semaines après que mon fils Saadias ait été tué, mon fils Hillel, le troisième, il a reçu le grade de policier, d'officier de police en Israël. Et on m'a demandé de parler. Et c'était le jour de la rafle du Veldiv, de la commémoration de la rafle du Veldiv. En juillet. Saadia est mort le 20 juin. Et j'ai dit là-bas à ces centaines de policiers qui ont reçu leur grade et qui avaient sur le bras le drapeau d'Israël. Je leur ai dit, vous savez, il y a 70 et quelques années, des policiers français ont pris vos frères juifs et les ont amenés au vélodrome du Veldiv pour les amener à Auschwitz après. Soyez fiers de ce que vous êtes, parce qu'aujourd'hui, on a une police israélienne, on a une armée israélienne, on a un but, on a un pourquoi, on a un comment, et ça n'arrivera plus jamais.
Amen.
Ça n'arrivera plus jamais. Dieu, c'est entre les mains de Dieu, c'est sûr. Mais ce qui s'est passé, ça n'arrivera plus jamais.
Lali Deray, à l'invitation du département promotion de la Alia de l'OSM, on vous retrouve dans toute une série de rencontres que j'ai données et que je redonne avec plaisir. Ce sera au salon de la Alia, ça c'est le 30 mars, c'est à Paris. Ce sera à Marseille demain soir, je parle sous votre contrôle, mesdames, si j'ai des bêtises, vous m'arrêtez.
La synagogue de Breteuil.
Oui, et on vous retrouve demain soir à Marseille, le 6, c'est dimanche. Lali Deray, merci.
Merci Bernard.
Merci.
Merci à Radio Shalom.
D'être venu nous voir.
Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.